Un extrait de la bande originale du film Gladiator, bien sûr, signé Hans Zimmer et Bernard Werber. Ça fait partie des quatre morceaux que vous écoutiez en boucle lorsque vous étiez en train d'écrire votre livre, le titre, Depuis l'au-delà, donc chez Albin Michel. On est à vos côtés donc jusqu'à 16h. À nos côtés également le professeur Jacques Hugon, neurologue et chef du centre de neurologie cognitive de l'hôpital Lariboisière à Paris, toujours avec notre médecin urgentiste, le docteur Kierzek. Alors Bernard, dans votre livre, vous êtes mort dès la première page, comme ça vous me direz c'est fait.
L'héros est mort.
Vous passez plus de 400 pages à essayer avec l'aide d'une médium de découvrir qui vous a tué. Alors avant ce livre, est-ce que vous étiez déjà convaincu des pouvoirs que disent avoir les médiums? Est-ce que vous étiez de ceux qui fréquentent les voyantes?
Alors, non, j'étais convaincu de rien, je ne suis toujours convaincu de rien. Par contre, j'aime qu'on me raconte des jolies histoires. Et je dois avouer, ma mère qui fréquentait les médiums me racontait des histoires que racontait la médium. Et je me disais, tiens, ça ouvre des perspectives. Et j'ai rencontré à un moment une médium qui m'a raconté mes vies antérieures, qui m'a raconté plein de choses. J'ai dit, écoutez, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je remarque une chose, c'est qu'avant de venir vous voir, j'étais un peu tristouné, et là, j'ai une super pêche. Donc, merci. Et à partir de là, je considère que les médiums racontent des histoires qui ouvrent des perspectives. Mais je ne suis pas dans cette problématique, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je suis dans, prenons l'hypothèse que les médiums ont un réel pouvoir, maintenant, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme chemin pour l'imagination, pour le roman, pour même la perspective sur ma propre vie? Me dire qu'il y a eu d'autres vies avant la mienne me donne l'impression que celle-ci, c'est une vie parmi d'autres, donc c'est pas si grave si je me planche, je pourrais revenir pour essayer de faire mieux.
Ça permet de relativiser les choses.
Ça relativise les choses, ça donne une perspective. Si on arrive juste en se disant qu'on va terminer en tas de viande qui va pourrir dans un cercueil, évidemment, ça, c'est un peu limité, quoi. Tandis que si on se dit, bon, bah, je vais renaître, et y a peut-être une possibilité aussi pour que je traîne encore un peu après ma mort pour discuter avec les vivants, je trouve que c'est une idée déjà qui rend joyeux et qui enlève de la dramatisation qui est autour de la mort.
Alors professeur Hugon, vous êtes médecin, donc vous êtes spécialiste du cerveau. Est-ce que vous pensez que le cerveau nous a quasiment tout révélé de toutes ses capacités à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent encore et vous vous dites, bah, de toute façon, peut-être que dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, on va en prendre encore tellement plus?
Non, d'abord, on connaît peu de choses sur le cerveau. On en connaît de plus en plus tous les jours. Mais malheureusement, l'architecture du cerveau est tellement complexe, avec les neurones, avec les synapses, avec les autres cellules. Le fonctionnement de chaque groupe de neurones, le fonctionnement des ensembles dans les régions cérébrales et les interconnexions avec ces régions font que tout ça, c'est très difficile encore à comprendre. On arrive de mieux en mieux à connaître le cerveau normal avec les nouvelles techniques, notamment les techniques d'imagerie moléculaire ou l'IRM fonctionnel, avec la biologie moléculaire, avec la génétique, mais il reste encore énormément de choses à découvrir sur le cerveau. Et puis le cerveau pathologique qui nous concerne plus, alors là, on ne connaît pas les causes de la maladie de Parkinson, mais d'Alzheimer, etc. Et donc là encore, on a un champ énorme dans l'avenir à explorer.
Alors quand on a préparé cette émission, je vous ai dit, bon, si quelqu'un vient vous voir en vous disant, professeur, j'ai des visions ou j'entends des voix, vous pensez pas forcément à l'au-delà.
Ah, pas du tout. Notre but, c'est pas de penser à l'au-delà. Notre but, c'est de savoir exactement si les visions que cette personne peut avoir sont liées à une pathologie neurologique, parfois une pathologie psychiatrique. Et là, on peut demander à la personne si elle sait que ses visions sont anormales ou bien si elle adhère à ses visions. Déjà, ça nous donne un élément de compréhension du mécanisme. Et puis après, si la personne vous dit « j'ai des visions, mais je sais que ce ne sont pas là, mais j'ai des visions quand même », à ce moment-là, tout un processus de diagnostic va se faire à la recherche de causes, qui peuvent être des causes dégénératives, souvent la maladie à Cordes-Lévy, ou parfois des déafférentations visuelles, le syndrome de Charles Bonnet, etc. Et là, on va chercher de façon très précise quelles sont les causes de ces visions anormales, quelles sont les causes de ces auditions anormales, parce que les gens peuvent entendre des bruits, ils peuvent sentir des odeurs. Ça peut être aussi de l'épilepsie temporale, etc. Et il faut absolument trouver le cause et pour trouver un remède à ces pathologies, je dirais, hallucinatoires.
Alors, on va revenir sur le livre de Bernard Werber. Dans votre livre, on retrouve un personnage que l'on suit à travers tous vos romans. C'est le personnage d'Edmond Wells. Donc, c'est quelqu'un qui est très, alors, très féru d'histoire et de petite histoire. Il est auteur de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. J'adore le titre. Une encyclopédie qui est une mine d'infos. Et par exemple, vous nous racontez l'histoire des trois sœurs Fox. Alors, ouais. L'histoire des trois sœurs Fox, elle est extraordinaire. Vous allez nous la raconter parce que quelque part, c'est un peu l'origine du mouvement spirit moderne.
Oui, c'est dans les années 1850. Il y a deux sœurs médiums et une sœur qui est pas médium. Les deux sœurs médiums prétendent qu'elles entendent une voix de quelqu'un qui s'est fait assassiner et dont le corps sera enterré dans la cave. Et elles finissent par tellement insister sur cette histoire qu'on va chercher dans la cave et on va trouver un cadavre. À partir de là, elles vont lancer le mouvement spirit et la mode de se mettre autour des tables tournantes. Et elles vont se donner en spectacle dans tous les États-Unis. Gérée par la sœur aînée qui s'appelle Léa.
Elle n'était pas médium, mais agent, elle.
Voilà, elle était agent et c'est elle qui a créé la Société Spirit Internationale. Ça va avoir énormément de succès. En France, ça va être repris par Victor Hugo, notamment. Aux États-Unis, par Conan Doyle. En Russie, bien plus tard, ça va être Rasputin qui va reprendre ça. Et donc, les gens, la grande mode va être lancée de se réunir autour d'une table et d'appeler les morts. Et les sœurs Fox, à un moment, vont perdre leur mari, les deux plus jeunes. Elles vont tomber dans la misère. Et à un moment, elles vont dire, écoutez, on va vous révéler quelque chose. En fait, on a triché depuis le début. C'est qu'on fait claquer nos orteils dans les chaussures. Et c'est comme ça qu'on fait croire qu'il y a des esprits qui s'expriment. Et à partir de là, leur carrière va encore plus s'effondrer. Elles vont terminer dans la misère, dans l'alcool. Par contre, la sœur aînée, Léa, va continuer à faire vivre la société de spiritisme en disant, qu'est-ce qui a pris à mes sœurs de dire ça? C'est complètement faux. On parle réellement avec les morts. Et au bout d'un moment, toute l'Europe et toute l'Amérique va être dans des réunions le soir pour parler avec des morts. C'est juste un phénomène, de mode, mais qui vit encore maintenant.
On pourrait dire que les sœurs Fox, elles ont fait le buzz.
Oui, elles ont fait le buzz et puis elles ont mal été récompensées.
On se retrouve dans quelques instants pour parler du pouvoir ou prétendu pouvoir des médiums, car c'est comme pour tout, il y a ceux qui croient à fond et ceux qui croient pas du tout.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
C'est un petit peu comme si on était dans la tête de Bernard Werber qui écrit de 8h30 à 12h30 tous les matins et qui pour écrire a besoin d'un support musical. Il y avait Gladiator qu'on a écouté tout à l'heure, un extrait. Et là, c'est Woodkid avec I Love You. On retrouve nos deux invités, Bernard Werber et le professeur Jacques Hugon, toujours à nos côtés, bien sûr, le docteur Kierzek. Alors, il y a deux personnages féminins dans votre livre très intéressant. Lucie Filippini, qui est la médium. Professeur Hugon, je vous la présente. Elle est médium. Et pour trouver son nom, vous êtes allé chercher le nom d'une religieuse reconnue sainte par l'Église catholique, histoire que votre médium peut-être ait un petit peu de crédibilité. Et puis, il y a un autre personnage dont on fait connaissance. Alors là, moi, j'ai été soufflée parce que je ne connaissais pas son histoire. Eddie Lamar, actrice hollywoodienne morte il n'y a pas très longtemps. Elle est morte en 2000. Elle était née en 1914. Elle a eu des amants, mais alors Henri Bambel, Kennedy, Howard Hughes, Clark Gable, Orson Welles. Une actrice magnifique. Elle est sublimement belle. Les photos lui rendent hommage, mais ce que personne ne sait, c'est qu'elle a inventé le procédé Lamar en 1941, qui est un procédé secret de communication toujours utilisé pour nos GPS.
Oui, elle était la beauté et l'intelligence réunies en une femme formidable. Donc mon héros, Gabriel Wells, est amoureux d'elle et il rêve de la rencontrer. Donc il ne l'a pas rencontrée de son vivant. Il espère la rencontrer depuis l'au-delà, dans le monde de l'au-delà. Mais c'est vrai que c'est un personnage extraordinaire, c'est la première actrice qui a montré ses seins et du coup ça avait créé une révolution à l'époque. Elle a été espionne et elle a travaillé donc avec un musicien et le système qu'elle a utilisé pour coder les messages envoyés aux torpilles est basé sur des morceaux de musique et c'est grâce à ça que nous avons actuellement le GPS, c'est-à-dire on s'inspire du système de codage et de décodage mis au point par cette actrice, mais vu que c'était ultra secret, ça a été révélé qu'il y a une dizaine d'années.
Ça a été déclassifié, comme voilà. On dit, c'était secret défense. France et on a pu avoir accès et rendre à Hedy Lamarr ce qu'elle avait fait, oui. Mis à part montrer ses seins sur pellicule.
Voilà, c'est un peu le truc extraordinaire, c'est quand j'écris un roman, je fais ma doc, je découvre des tas de personnages fabuleux et je me dis, tu aurais pratiquement un roman entier à écrire sur elle. C'est comme tout à l'heure, on parlait du mystère du cerveau. Je rejoins tout à fait le professeur Hugon sur le cerveau, on ne sait pas grand chose. Alors on en sait plus qu'avant, mais
qu'il en sait un peu plus que nous.
Voilà,
quand même.
Il en sait plus que nous, mais ça reste encore un domaine entièrement mystérieux. Et notamment dans le livre, dans l'encyclopédie sur relatif et absolu, je parle du ver planaire, qui est aussi une découverte très récente, dans lequel on s'est aperçu qu'il y a un ver, on le met dans un labyrinthe où il y a des récompenses et des punitions, et si on lui coupe la tête, la tête va repousser et il va se rappeler où se trouvent les récompenses et les punitions. Donc ça veut dire que l'esprit n'est pas forcément que dans la petite matière gélatineuse qui a
du cerveau.
C'est ailleurs et cet élément, c'est le grand mystère, je crois, de nos jours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où se trouve l'esprit et il y a un moment, la cartographie, on croyait que c'était un endroit, puis après on croyait la mémoire. Il y a eu plein de théories, mais au final, le cerveau reste un mystère. Et c'est en ça que c'est un sujet vraiment romanesque.
Professeur Hugon, est-ce que vous connaissiez l'existence de ce petit ver qui ressemble à rien de 4 cm?
J'en avais entendu parler, mais honnêtement, j'ai appris beaucoup en écoutant Bernard Werber. Là. Alors, ce qu'il faut être très, très prudent en dire que le cerveau, on connaît pas. On connaît beaucoup de choses maintenant. Il faut quand même, à la fois, la neuroscience a permis de découvrir plein de fonctionnements, notamment au niveau des interrelations entre les neurones, les différents types de neurones. Et puis après, les études de comportement, les études d'imagerie ont permis quand même de connaître un certain nombre d'éléments capitaux. Par exemple, est-ce que vous savez que lorsque vous vous reposez, eh bien vous avez une zone de repos qui est hyperactive au niveau de la région pariétale, qu'on voit très bien en IRM fonctionnel, et donc c'est l'état de repos qui, en fin de compte, n'existe pas chez le sujet qui est actif, mais par contre, il existe chez le sujet au repos, et il est très actif à ce niveau-là, on voit que le cerveau
C'est le sommeil paradoxal, et c'est toute l'activité qu'on a quand le cerveau fonctionne tout le temps.
Qui m'intéresse, moi, c'est que tout ce que vous me dites avec ces voyances et tout, c'est probablement aussi la théorie de l'intuition. Vous savez que lorsqu'on a un problème à résoudre, on a deux moyens de le résoudre. Le premier est de faire fonctionner surtout notre lobe frontal, notre mémoire, et d'analyser exactement les choses. Et puis, petit à petit, on arrive à une solution. Et puis, il y a un deuxième une deuxième capacité, comme disait Bernstein, c'est une sorte d'excès de vitesse de l'intelligence, c'est l'intuition. Et les voies de l'intuition sont différentes, passent par le tronc cérébral, par certaines régions temporales, etc. Et là, en l'espace de quelques instants, vous trouvez une solution et peut-être que vous trouvez des choses et ces gens peut-être ont des capacités d'intuition extraordinaires et il y a peut-être des gens beaucoup plus intuitifs et les voies de l'intuition qui sont différentes, c'est la voie basse alors que la voie de la réflexion c'est la voie haute, et bien ces voies de l'intuition sont beaucoup plus développées peut-être chez certaines personnes et qu'ils utilisent cette intuition pour déterminer chez l'individu qui est en phase 2 eh bien, quels sont les éléments un peu faibles, les éléments un peu forts pour leur révéler leur soi à eux. C'est ça qui est important et je crois que le fonctionnement du système nerveux, on a encore beaucoup à apprendre, mais on a des choses comme ça toutes simples, de psychologie et de neuropsychologie qui petit à petit devraient permettre un jour de comprendre peut-être des choses qu'à l'heure actuelle on ne comprend pas.
Comment vous pourriez expliquer, par exemple, cette sensation que l'on a éprouvée tous un jour de déjà-vu ? J'ai déjà vécu cette situation. Est-ce que là aussi, il y a une explication ?
Oui. Alors là, l'explication de déjà-vu, c'est un peu comme l'ictus amnésique. Le déjà-vu, souvent est lié à une petite activité épileptique temporale. C'est-à-dire que les gens qui font l'épilepsie temporale connaissent bien, c'était un moment, ils ont brutalement la sensation de se retrouver dans un espace comme s'ils avaient vécu déjà exactement la même chose au même moment. Et on sait que des dysfonctionnements du lobe temporal, pas forcément épileptiques comme les grands épileptiques, mais peut-être des dysfonctionnements conduisent à cette sensation qui est très fugace. Et c'est un peu comme les gens qui brutalement perdent la mémoire, font un ictus amnésique pendant quelques heures. On sait que probablement ces régions hippocampiques bilatérales fonctionnent moins bien, et puis ils sortent de cet ictus amnésique et ils ont tout oublié. Ils reprennent leur vie 2 heures avant ou 3 heures avant. Tout ça sont des phénomènes qu'on explique difficilement en neurologie, hein, mais on arrive de plus en plus à connaître pourquoi le fonctionnement déraille à un moment et pourquoi ces gens ont ces impressions anormales, quoi.
Alors on va se retrouver dans quelques instants pour continuer à parler de notre cerveau à travers ce polar signé Bernard Werber depuis l'au-delà, où bien sûr l'auteur, personnage de fiction, le héros qui a été tué dès la première page, décide de s'allier à une médium pour enfin connaître l'identité de son assassin.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et toujours avec nos invités, avec nous en studio, Bernard Werber, le professeur Jacques Hugon est avec le docteur Kierzek, toujours autour du livre de Bernard Werber, Depuis l'au-delà, paru chez Albin Michel. Alors, dans votre livre, il y a aussi Bernard Werber, parce qu'il y a plein d'études que vous nous proposez, puis du coup, ça nous fait réfléchir. Il y a la théorie du centième singe. Alors là, du coup, j'ai appris quelque chose. Ce sont des observations qui ont été faites sur des macaques au Japon, voilà, qui étaient nourris par des scientifiques, qui leur balançaient des patates douces, mais au lieu de les donner aux macaques, il les balançait dans le sable.
Voilà. Et donc, il y a une femelle qui a eu l'idée de laver une patate douce. Et dès qu'elle a eu ce comportement, les autres, les vieux mâles l'ont vu dans le style, qu'est-ce qui lui prend à celle-là à faire avoir ce comportement. Mais elle est arrivée à convaincre d'autres femelles de faire pareil. Et au bout d'un moment, il y a un groupe de singes qui s'est mis à nettoyer les patates douces qui avaient du sable. Et ils se sont aperçus que quand ce chiffre a atteint 100, tout d'un coup, le fait de nettoyer les patates douces est devenu la norme, et que les vieux singes aigris, mâles, qui voulaient pas, qui la considéraient comme une révolutionnaire, ont fini eux aussi par nettoyer la patate douce. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où le centième singe s'est mis à nettoyer les patates douces, il s'avère que sur l'île d'à côté, qui n'avait strictement aucun lien, il s'avère que les singes se sont mis aussi à avoir le même comportement. Comme s'il y avait eu un lien, une connexion.
Une transmission par les ondes
de ce comportement est le meilleur comportement à avoir par rapport au fait de gérer ses patates douces en sablé. Et de là, donc, il y a un sociologue américain qui a déduit que finalement tous les phénomènes atteignaient à partir d'un certain nombre de personnes qui commençaient à avoir le même comportement, commençait à être admis comme une norme. C'est-à-dire ça paraissait bizarre tant qu'il y avait un nombre trop réduit, mais quand ça dépassait un certain chiffre, ça devenait la normalité. Et donc il étudiait toutes les espèces et toute l'histoire de l'humanité, de tous les moments où on a intégré la nouveauté et l'histoire de tous ces gens qui sont arrivés à faire basculer au centième singe, c'est-à-dire le moment où le comportement est devenu normal.
Professeur Hugon, est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer que les singes de l'île d'à côté, qui n'avaient aucun moyen d'y être allés à la nage d'un côté comme de l'autre, aient aussi tout à coup eu l'idée de laver leurs patates douces ?
Alors, j'ai pas d'explication. La seule explication qu'on peut, et on le voit chez la fourmi avec l'intelligence collective, et aussi chez l'homme avec l'intelligence collective, c'est que notre cerveau est éminemment flexible. C'est-à-dire qu'on a une plasticité, pas de neurones, puisqu'ils ne bougent pas, mais des synapses et des connexions entre les neurones, et qu'à tout moment, qu'on ait 20 ans, 15 ans, 30 ans, 60 ans, on est capable de s'adapter immédiatement à une situation pour peu qu'on ait compris ce qui allait nous apporter, ce qui allait être bénéfique pour l'être humain. Et donc, l'histoire est très, très intelligente, c'est-à-dire que peut-être que le fait que les singes mangeaient ces patates douces avec des cailloux, au bout d'un certain temps, ils ont compris que ça faisait mal, et qu'une fois qu'ils ont mangé la patate douce avec plus de cailloux, ils se sont dit, mais c'est meilleur, il y a plus de goût et tout. Et à ce moment-là, l'intelligence collective, l'intelligence des individus plus l'intelligence collective fait que, petit à petit, eh bien, la norme change parce qu'il y a un bénéfice. Ouais. Évidemment, tout le monde a un bénéfice. À partir du moment où on améliore les conditions de vie, l'environnement, le bien-être d'individus, eh bien, le cerveau va changer, va s'adapter. Et notre cerveau est en permanence flexible, en permanence plastique, et à ce moment-là, on est tout à fait capable, dans un élément donné, de changer. Imaginez qu'il y a 30 ans, on n'avait pas de portable, hein, on écoutait la radio très loin, et maintenant, 30 ans après, tout le monde a son portable et vit avec un portable. Il y a eu une modification de nos capacités visuelles, c'est-à-dire qu'on s'est adapté à la télévision, on s'est adapté au portable, on s'est adapté aux touches et tout ça, et maintenant, tout le monde tape sur son portable, tout le monde tape sur son ordinateur, alors qu'il y a 20, 30, 40 ans, c'était difficile. Donc, il y a des plasticités qui se font pour le bénéfice de la communication là, de la vision des choses ou d'une intelligence qui va nous permettre d'améliorer nos conditions de vie.
Il y a une théorie de Teilhard de Chardin qui s'appelle la noosphère, qui parle de ça, c'est-à-dire qu'il imagine que les inconscients de tous les gens, là on est à la limite entre la science et la non-science, mais Teilhard de Chardin c'est aussi un philosophe, c'est-à-dire que le soir, les âmes ou les rêves des humains se rejoignent dans une sorte de nuage dans lequel tout le monde peut se connecter. Ça expliquerait qu'il se soit passé aussi, avant les téléphones portables, avant la télévision, des découvertes simultanées dans le monde, par exemple le tissu, l'élevage, le feu, ont été trouvés dans plusieurs endroits du monde au même moment. Et donc la théorie de Chardin, c'est qu'il y a une sorte de connexion, il y aurait une sorte de nuage dans lequel se trouvent toutes les âmes et dans lequel les gens peuvent se connecter, notamment durant les rêves et durant le sommeil.
Alors il y a deux connectés qui s'invitent dans notre émission cet après-midi, Claude Nougaro et Armstrong.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on continue de parler avec nos invités du cerveau, du parapsychologique, de l'intuition, du déjà-vu, de tout ce que notre cerveau pourrait encore nous révéler. Donc avec nous, Bernard Werber, le professeur Jacques Hugon, le docteur Gérald Kierzek. Professeur Hugon, vous êtes rationnel, cartésien, scientifique, médecin. Voilà. Quand vous avez commencé vos études, est-ce que vous imaginiez tout ce que les découvertes allaient vous apporter comme surprise ?
Non, quand je commençais mes études, ça fait un petit moment quand même. D'abord, le scanner arrivait et donc on a commencé à voir les lésions. J'ai quelqu'un qui faisait une hémiplégie ou qui avait une tumeur dès le départ, comme ça. C'était donc les premières imageries et l'exploration du cerveau, aussi bien d'un point de vue statique avec l'IRM ou bien dynamique avec l'IRM fonctionnel ou le PET scan, a permis d'énormes progrès dans la compréhension du cerveau normal et aussi dans la détection du cerveau pathologique. Et puis au niveau cellulaire, la chose qui était très très intéressante, c'est que on nous apprenait que plus on vieillissait, plus les neurones allaient dégénérer. Le vieillissement entraîne une dégénérescence relativement modérée des neurones et c'est la maladie dégénérative qui, elle, entraîne la mort des neurones. Et puis on a découvert d'abord chez l'animal et puis ensuite chez l'homme qu'il y avait quand même des petites régions. Alors chez l'homme, c'est pas énorme, autour des ventricules, dans l'hippocampe, etc., où les neurones se recréaient à partir de cellules souches, et c'est la grande révolution des cellules souches, pas uniquement au niveau du cerveau, mais aussi partout dans le corps humain. Et ces cellules souches, on peut maintenant les modifier et tout. Et il y a eu des tentatives, par exemple, pour injecter des cellules souches dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, etc. Ça marche pas beaucoup, mais il faut comprendre que dans certaines régions du cerveau, bien, on a des neurones qui se recréent à partir de cellules souches. Peut-être qu'un jour, ça permettra aussi de comprendre pourquoi ces régions se régénèrent, à ce moment-là, d'essayer de régénérer d'autres régions qui deviennent malades.
Alors Bernard Werber, lorsque vous êtes né, on a découvert bien après que vous aviez une maladie génétique, la SPA, la spondylarthrite ankylosante, une maladie qui peu à peu bloque le dos, donc vous saviez que ça n'allait pas s'arranger, sauf que vous vous êtes dit que écrire ça vous aidait et vous êtes allé trouver une étude néo-zélandaise qui montre que les accidentés de la route qui écrivent sur un journal, qui font l'effort d'écrire et qui se font plaisir en écrivant, guérissent deux fois plus vite que ceux qui n'écrivent pas. C'est la victoire un petit peu de l'esprit sur le corps.
Oui, moi je crois que d'abord je donne une masterclass où je donne comme conseil aux gens d'écrire même s'ils n'ont pas envie, enfin même si ils sont pas sûrs d'être publiés, mais d'écrire pour le plaisir d'écrire, comme un cheval galope pour le plaisir de galoper sans attendre de gagner des courses. Et j'ai pu soigner ma maladie grâce à l'écriture, qui est une forme d'évasion de l'esprit qui me faisait oublier que mon corps était en train de se souder. Et vers 30 ans, alors que j'avais déjà sorti deux livres, je m'aperçois que j'avais plus de crise. J'ai continué d'écrire et les crises ont disparu. Et à ce jour, je n'ai plus de crise, alors que c'est une maladie normalement qui bloque tout le corps. Donc j'en ai déduit que l'une des manières de se soigner peut être l'art, la création, en tout cas la joie dans une forme d'expression, c'est-à-dire de faire sortir la pression de son corps. Et moi j'écris dans la joie, et j'espère que les gens me lisent dans la joie, mais je crois que c'est un objet de plaisir, mais c'est aussi, le livre est aussi un objet curatif, c'est-à-dire qu'on peut se soigner en écrivant et en lisant.
Professeur Hugon ?
C'est possible.
Tous les deux parce que vous êtes... Professeur Hugon, vous êtes dans l'idée, et c'est très bien de dire, on a découvert plein de choses, mais gardons-nous de dire qu'on a tout découvert.
Absolument.
Et donc soyons prudents. Et quant à Bernard Werber, il dit, moi j'ai envie de croire à plein de choses parce que ça me fait du bien.
Je pense que c'est très bien, et je crois que à partir du moment où, ce matin j'ai consulté, et l'important quand on consulte, on voit les patients, c'est que les patients soient heureux, et qu'on arrive à transformer quelqu'un qui souffre souffre en quelqu'un qui ne souffre plus et dont l'état d'esprit s'est amélioré, quelles que soient les techniques qu'on utilise, quels que soient les médicaments ou les approches qu'on utilise. Et si donc Bernard Werber se trouve amélioré au niveau de sa spondylarthrite ankylosante par l'écriture, j'en suis ravi
et surtout qu'il continue.
Et qu'il continue.
Et surtout qu'il continue.
Bien sûr,
merci, merci à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle le titre de votre livre, Bernard Werber, le livre où vous retrouvez entre autres la fabuleuse histoire d'Eddie Lamarre, Depuis l'au-delà, un livre qui vient de paraître chez Albin Michel. On n'en saura pas plus sur qui vous a tué. Merci messieurs et à bientôt. Dans quelques instants, c'est Anne Cazobon avec Antidote qui va venir nous rejoindre.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.